Nzamba.
Nzambira samirana.
Merci de rester fidèle à la radio Nzamba Gateka Kawe dans l'actualité de ce 10 février 2022. Les intempéries ont fait des sans-abri ce jeudi dans la commune de Bukinayana de la province de Chibitoke. Des dizaines de maisons et des cultures ont été détruites, des routes et des ponts coupés. Des sinistrés réclament de l'aide. Un détenu extrait du cachot de la zone Moussaga est conduit vers une destination inconnue de ses proches. Cela s'est passé lundi dernier. Sa famille inquiète et réclame des informations sur son nouveau lieu de détention. Et colère des habitants de la colline Gatonga en province de Rutana. Ils protestent contre l'impunité dont jouirait le chef de cette colline, accusé d'avoir sauvagement battu un enfant de 12 ans lundi dernier. L'état de santé de la victime est très critique. Et voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons ce journal par ce drame qui s'est produit à Mabanda en province de Makamba. Un homme a tué sa femme et son enfant à coups de massue ce mercredi vers 17h. La femme est morte sur le champ, mais son fils est décédé ce jeudi matin au centre de santé de Musenyi de Mabanda. Onésime Bouchoumi, auteur du double meurtre, est placé en garde à vue. Le couple a 4 enfants. Et puis cette inquiétude chez des proches de Thierry y a causé. Ce jeune homme originaire de la colline de Nyakimoni de la commune de Mugamba en province de Bujumbura a été retiré lundi dernier du cachot de la police de la zone Moussaga à mairie de Bujumbura selon les témoins. Ses proches affirment n'avoir plus de ses nouvelles. Thierry Iakose avait été arrêté le 31 janvier dernier à la gare du Sud en zone Moussaga dans la ville de Bujumbura. Le point avec Benny Axelkana.
Selon nos informations, dans la commune Mugamba, Thierry Irakoze a été arrêté le 31 janvier par le commissaire municipal Pierre Claver Bigilimana, connu sous le nom de Lutuku, alors qu'il conduisait une voiture de transport en provenance du chef-lieu de la commune Matana, en province Bururi. Lorsque le commissaire Lutuku l'a arrêté, Thierry Irakoze croyait que sa voiture avait un problème d'ordre technique, mais le policier ne lui a pas révélé l'infraction qui lui était reprochée. La famille du prévenu a même payé la somme de 20 000 francs, croyant à une éventuelle infraction routière, mais il n'a pas été libéré, comme celui-ci l'indique.
Nous avons demandé à plusieurs reprises au chef de poste et nous avons même versé de l'argent, croyant que le véhicule avait un défaut. Le chef de poste nous a répondu que cette amende donnée n'avait aucune signification. On ne connaît pas jusqu'à maintenant son lieu de détention depuis qu'il a été enlevé ce lundi. Auparavant, il était joignable sur son téléphone, mais maintenant il est injoignable.
Nos sources à Moussaga indiquent que ceux qui l'ont embarqué ont dit qu'il est convoqué par le commissaire municipal Lutuku. Depuis son embarcation ce lundi, personne ne sait où est détenu Thierry Irakoze. Ses proches disent craindre pour sa sécurité. Thierry Irakoze avait déjà été arrêté en 2016, accusé d'avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Il avait été arrêté et conduit au cachot du Service national des renseignements en mairie de Bujumbura. Mais il avait été relâché par la justice car il n'avait encore que 17 ans et donc mineur, pas pénalement responsable. Pour rappel, Thierry Irakoze a été arrêté, comme de nombreuses autres personnes de sa colline Nyakimoni, arrêté depuis 2021 par le commissaire Moïse Arakaza, connu sous le sobriquet de Nyega Nyega, alors commissaire communal de Mugamba. La radio Nzamba n'a pas encore trouvé par téléphone le commissaire Pierre Claver Bigilimana, connu sous le sobriquet de Lutuku, pour connaître les mobiles de l'arrestation de Thierry Irakoze.
Et rendons-nous à Rutana, au sud du pays, pour parler de maltraitance. Un enfant de 12 ans est dans un état critique après avoir été roué de coups par le chef de la colline de Gatonga, zone mousier de la commune Giharo, selon des sources sur place. Cela s'est produit lundi dernier. Ce responsable collinaire l'accusait de lui avoir volé un téléphone portable. L'enfant a été gardé à la permanence du parti CNDD-FDD de la colline Gatonga, mais le téléphone a été retrouvé par après. Les habitants de Gatonga réclament des sanctions à l'endroit de cet administratif. Les détails avec Vanessa Muiteka.
Des informations émanant de la colline Gatonga font savoir que l'enfant qui a été violenté répond au nom de Nilamiba Charles, âgé de 12 ans. Cet enfant étudiant en première année de l'école fondamentale de Gatonga. l'auteur du forfait, et Léonard Balakamfitiyé, le chef de cette colline. Il est accusé d'avoir volé un téléphone portable dans un restaurant situé à cette colline alors que les parents lui avaient envoyé chercher du feu. Léonard Balakamfitiyé, chef de colline et en même temps pasteur de l'église méthodiste unie, dans ses enquêtes, il a menacé l'enfant, l'accusant d'avoir volé le téléphone. L'enfant a dû s'expliquer, mais en vain. Après la bastonnade, Jean Nila Meva a été conduit à la permanence du CNDD-FDD de la même colline pour y être gardé. Finalement, le téléphone a été retrouvé dans le restaurant. Les témoins sur place pensent que l'enfant est victime de l'appartenance politique de son papa, Namahungi le Gérard, qui représente le parti CNL sur la même colline. Jusqu'à présent, l'enfant souffre encore et ne parvient pas à s'asseoir. Le comble, le chef de colline a intimidé les parents leur empêchant de conduire l'enfant à l'hôpital. Les voisins de la famille demandent aux autorités hiérarchiques du chef de Gatonga de punir conformément à la loi Léonard Balakamfitiyé. Nous avons cherché la version de Léonard Balakamfitiyé, chef de colline Gatonga, par rapport aux accusations, mais sans succès.
Et de Rotana, cap sur la commune de Bukinayana de la province de Chibitoke, où les intempéries ont occasionné beaucoup de dégâts. C'était une scène de désolation ce matin. Sur certaines collines de cette commune, après une forte pluie et des vents violents depuis hier mercredi et ce jeudi matin, les routes nationales 10 et 9 ont été coupées à certains endroits. Les ponts Nyakibaya reliant Ndora et Kirura, le pont Delama reliant Masango et Ndora se sont effondrés. Une trentaine de maisons ont été détruites. Des dizaines de familles ont passé la nuit à la belle étoile selon des témoins. Au moins 30 hectares de culture ont été également endommagés selon un bilan provisoire adressé par l'administrateur communal Christian Moulikié. Les collines les plus touchées sont Masango, Kibati, Kibaya et Wurimbi. Les familles dont les maisons ont été détruites sollicitent de l'aide pour avoir de nouveaux abris.
Inzamba.
La suite de ce journal avec l'actualité judiciaire. Deux frères écopent d'une peine à perpétuité. Jugement rendu ce jeudi par le tribunal de grande instance de Kayanza. Ils sont accusés d'avoir tué avec préméditation un conducteur de mototaxi dimanche dernier en commune de Kayanza. Des précisions avec Diane Mounouziza.
Lors de leur comparution devant le tribunal, le substitut du procureur a, dans son réquisitoire, accusé les deux frères d'avoir tué un motard après préméditation. Il a fait savoir que pour mettre à exécution la sale besogne, Prosper Nezegwe, qui venait d'arriver dans la ville de Kayanza en provenance de Bujumbura, a pris une moto. La dite moto l'a conduit sur la colline Kivuruga, où réside la famille. À son arrivée, la moto a été garée devant la maison de son grand frère Roger Rabonimana. Ce dernier a alors fait semblant d'aller se promener, puis Prosper et le motard sont descendus un peu jusqu'au domicile de leur sœur. Il a invité le motard à entrer dans le salon pour avoir son argent, ce que ce dernier a vite fait. Mais dans la même maison se cachaient trois hommes venus eux aussi de Bujumbura, mais qui y avaient passé clandestinement la nuit de samedi à dimanche. Ces inconnus ont immédiatement pris le motard et l'ont tué par strangulation. Et pour achever complètement la sale besogne, Prosper a demandé à sa sœur de lui apporter une machette. Oui, le forfait a été consommé. Et le corps sans vie a été immédiatement plongé dans un fossé situé dans la même concession. Quand la mère de Prosper s'est rendue compte qu'un crime sanglant venait de se produire dans cette habitation, elle a crié au secours. Et tous les criminels ont pris le large, mais sans emporter la moto. La sœur des deux frères étant partie avec les clés de contact de la moto, les documents et l'argent trouvés dans la poche du motard. À l'arrivée de la police, celle-ci a mis la main sur le nommé Roger, le grand frère de Prosper, pour des réseaux d'enquête. Puis Prosper, lui, il ne sera qu'appréhendé avant-hier mardi sur la colline Lugura, en commune Muruta, où il s'était retranché. Le reste des complices dans cet assassinat reste toujours recherché. Quand il s'est agi à chacun de ces deux de s'expliquer, Prosper Nezegwe a précisé qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais que son objectif était de voler la moto du défunt. Cependant, son grand frère Roger Rabonimana, lui, a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui et a demandé plutôt d'être blanchi dans cette affaire. Dans ses conclusions, l'officier du ministère public a demandé au tribunal d'infliger une peine criminelle à perpétuité à tous ses deux frères et a versé un dédommagement moral à la famille de la victime d'une somme de 20 millions de francs burundais. Après que l'affaire a été mise en délibéré, le tribunal a prononcé à l'endroit des deux hommes une peine carcérale à perpétuité et a versé également une somme de 20 millions de francs burundais. À côté de tout cela, ils devront payer un montant de 600 000 francs au propriétaire de la moto pour 3 semaines, qui n'a pas perçu des versements suite à cette situation.
Un cadre militaire constate un refus d'ordre de son subalterne, lui ouvre un dossier disciplinaire et l'affaire est transférée aux juridictions compétentes, le conseil de guerre ou la cour militaire. C'est ce qu'indique Méthode Ndi Kumasabo, un ancien officier de l'armée burundaise, spécialiste du droit pénal international et professeur dans les universités de la région. Lecture faite suite aux informations faisant état de 20 militaires tués la semaine dernière en province de Cibitoke pour avoir refusé l'ordre de leur supérieur hiérarchique d'aller combattre en République démocratique du Congo. Si l'exécution extrajudiciaire se manifeste au cas pareil, les exécutants doivent répondre de leurs actes devant la justice. Écoutez Méthode Nikumasabo.
Pour une partie, le militaire ne doit jamais porter de jugement sur l'ordre reçu. Il doit l'exécuter tel quel. Pour une autre tendance, il a le droit d'apprécier la légalité ou l'illégalité des ordres reçus et n'exécuter que ceux qu'il estime légaux. La tendance intermédiaire dominante aujourd'hui est centrée sur le caractère manifestement illégal de l'ordre, celui-là ne devant pas être exécuté. Ici, on vise spécifiquement les atteintes graves à l'intégrité physique des personnes et plus particulièrement les crimes internationaux graves, par exemple les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, etc. Pour ces crimes-là, le militaire n'est pas excusé lorsque il exécute les ordres reçus de sa hiérarchie. Ce cadre théorique étant fait, je ne peux évidemment pas me prononcer sur les faits que vous avez relatés dans votre émission sans avoir eu la possibilité d'entendre les deux parties ou d'obtenir d'autres preuves. Cela étant, lorsqu'un militaire n'exécute pas un ordre, ses chefs ont le loisir d'ouvrir un dossier, soit disciplinaire, soit pénal. Et dans ce dernier cas, l'affaire est déférée aux juridictions militaires que sont le conseil de guerre au premier degré et la cour militaire en degré d'appel. Et je peux vous assurer que les peines prévues sont lourdes. Bien entendu, si réellement ces militaires ont été tués pour avoir refusé d'aller en mission hors du pays, la question prendrait une autre tournure. Et je peux vous assurer, sur la base des connaissances que j'ai en cette matière, relatives à des incidents similaires dans le monde, dans des situations politiques proches de celles du Burundi, que la justice pour les victimes finit par triompher. C'est juste une question de temps.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Et à présent, ses réactions à la levée des sanctions que l'Union européenne avait prises contre le Burundi en 2016. Eh bien, la mesure n'est pas fondée sur des faits d'amélioration de la situation des droits de l'homme, selon Karina Tersakian, chercheur au sein de l'Initiative des droits humains au Burundi. Même si certains gestes d'espoir avaient été posés en 2020-2021, entre autres la libération des défenseurs des droits humains, cela ne suffisait pas pour lever ces sanctions, regrette Karina Tersakian au lendemain de l'annonce de la levée de ces sanctions. Je vous prie de l'écouter.
Cette décision de l'Union européenne semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression que l'Union européenne est prête à fermer les yeux sur les graves violations des droits humains qui continuent aujourd'hui. Rappelons qu'en 2016, l'Union européenne avait suspendu l'aide directe au gouvernement burundais à cause des violations très graves des droits humains à cette époque. Et elle avait formulé une série d'engagements très clairs qui étaient attendus du gouvernement burundais avant de pouvoir lever ces restrictions. Mais le gouvernement burundais n'a pas réalisé la plupart de ses engagements et la plupart des préoccupations de l'Union européenne restent très pertinentes aujourd'hui. Même si, globalement, le niveau de violence aujourd'hui a diminué par rapport à 2016, plusieurs des mêmes tendances persistent encore aujourd'hui, notamment la répression politique et les sévères restrictions à la liberté d'expression. Il y a eu en 2020 et 2021 certains gestes positifs, par exemple la libération de deux défenseurs des droits humains, mais entre-temps, un autre ancien défenseur des droits humains, l'avocat maître Tony Germain Nkina, a été arrêté, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et est toujours en train de purger sa peine. Nous avons documenté également de nombreux cas de torture par le Service national de renseignement, par exemple tout au long de 2021, ainsi que des cas de disparition forcée, notamment de membres de l'opposition. Donc, même s'il y a eu des progrès, c'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable. Alors, le président Evariste Ndayishimiye continue de faire beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes déclarations en faveur des droits humains, en faveur de la justice, mais l'Union européenne devrait baser ses décisions sur des faits concrets, bien documentés, et non sur de simples souhaits ou des promesses.
Et c'est au mépris des droits humains que l'Union européenne a opté pour la levée des sanctions. Réagit de son côté l'ONG Action chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT France, dans un communiqué publié ce mercredi. Clément Boursan, responsable de la zone Afrique à l'ACAT France, estime que la reprise de cette coopération n'a pas tenu compte de l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. On l'écoute.
L'ACAT France, d'une certaine manière, regrette que cette décision de reprise de la coopération ne soit pas consécutive à une réelle amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. D'une certaine manière, nous ne sommes pas contre une reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, mais il faut se rendre compte que les engagements qui avaient été pris par le Burundi, mais également par l'Union européenne, n'ont pas été respectés. Les sanctions avaient été prises en 2016, à la suite de graves violations des droits humains commises en 2015, et les autorités burundaises, mais également l'Union européenne, s'étaient engagées sur une matrice à respecter. Or, si on reprend cette matrice d'engagement, on voit qu'un certain nombre d'engagements n'ont pas été respectés, notamment ce qui a trait à la société civile et aux défenseurs des droits humains, ce qui a trait à la lutte contre l'impunité, et également ce qui a trait au désarmement des Imbonerakure. Et donc sur ce volet-là, on se rend compte que d'une certaine manière, cette reprise de la coopération est avant tout un compromis de réelle politique pour l'Union européenne, où les droits humains sont relégués en second plan. Selon nous, le moment n'était pas opportun pour une reprise de la coopération. On attendait davantage d'amélioration de la situation des droits humains au Burundi, et que les engagements pris par le Burundi soient davantage respectés. Il nous semble que ce compromis est avant tout fait dans un contexte international tendu. L'Union européenne et ses États membres ne veulent pas se couper avec le Burundi et éventuellement laisser la porte ouverte à la Russie dans un contexte international tendu avec ce pays, notamment en Afrique centrale. Il est clair que cette prise de décision de l'Union européenne envoie un signal plutôt négatif, comme quoi l'Union européenne ferme d'une certaine manière les yeux sur la situation actuelle des droits humains au Burundi et que du coup, d'une certaine manière, les auteurs de répression dans le passé se sentent peut-être moins sous pression actuellement.
Et que dit Faustin Ndikumana, économiste burundais, à propos de cette mesure de l'Union européenne? Il la trouve salutaire pour l'économie du Burundi, même si cela ne suffit pas pour l'émergence économique d'un pays. Toutefois, il demande aux autorités burundaises de respecter à la lettre les conditionnalités de l'octroi de l'aide pour que les causes qui avaient été à l'origine de ces sanctions de l'Union européenne ne soit plus un obstacle à l'aide étrangère dont le Burundi a tant besoin. Faustin Ndikumana.
Je dois souligner que l'Union européenne est l'un des partenaires qui offre beaucoup de financement dans son secteur d'aide publique au développement. Et l'Union européenne est un partenaire très important. Mais là aussi, il faut aussi interpréter la conscience des Burundais et du gouvernement parce que même l'aide publique au développement garde ses conditionnalités parce que au niveau des déblocages, des conditions de bonne gouvernance, de gestion transparente, de lutte contre la corruption, réapparaissent parce que les sanctions sont lésées, mais on doit commencer la coopération. À travers cette coopération, il y a des conditionnalités même qui sont retenues dans la déclaration de Paris et qui régit l'aide publique, le fonctionnement de l'aide publique au développement. Je crois bien que quelque part le gouvernement doit aussi renforcer la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Parce que même il y a d'autres partenaires qui n'avaient pas pris des sanctions, mais qui octroient des financements au Burundi, mais la capacité d'absorption reste faible. Il faut renforcer la gouvernance pour maximiser le profit de ces retombées positives, relever de cette sanction en renforçant la bonne gouvernance. Encore une fois, nous devons aussi faire tirer attention au Burundi, au gouvernement, que l'aide publique au développement ne suffit pas pour développer un pays, pour se projeter dans l'émergence que le chef de l'État a évoqué au moment de la tenue du récent forum. Je crois qu'il faut avoir d'autres canaux de finance. Ça veut dire que l'aide publique au développement, cette coopération doit nous aider à stabiliser notre économie pour avoir confiance, permettant à accéder à un niveau pour ouvrir d'autres canaux de financement consistants.
Et pour clore ce journal, parlons de l'annonce faite au sujet des prix des transports en commun. Au lieu de 100 francs ajoutés récemment par une commission qui était chargée de revoir ces prix, ils sont revenus à 50 francs seulement, soit 12,63% selon la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Marie-Chantal Nijimbele. Elle explique que ces prix ont été revus à la hausse suite au prix du carburant qui a augmenté. Marie-Chantal Nijimbele s'exprimait lors d'un point de presse ce mercredi.
Le prix du transport par bus en mairie de Bujumbura passe de 450 francs bout à 450 francs bout. Le prix de transport par bus dans les quartiers périphériques sont fixés de la façon suivante. Centre-ville, Père Milango, rond-point, 500 francs bout. Centre-ville, Père Boutelele, 600 francs bout. Centre-ville, Charama, 600 francs bout. Centre-ville, Kilili, 550 francs bout. Centre-ville, Diva, 800 francs bout. Centre-ville, Maranda, 950 francs bout, centre-ville Kamesa, 650 francs bout, et centre-ville Bouliridi, 850 francs bout. Les prix de transport à l'intérieur du pays sont fixés comme suit. Itinéraire Bujumbura-Gitega, 7000 francs bout, Bujumbura-Bubanza, 3500, Bujumbura-Buganda, 3500 francs bout, Bujumbura-Bugarama, 3000, Bujumbura-Bukeye, 4500, Bujumbura-Bukiratazi, 10000 francs, Bujumbura-Buraja, 11500 francs bout, Bujumbura-Bururi, 7000 francs bout, Bujumbura-Charmuto, 15500 francs bout, Bujumbura-Gatumba, 1000 francs bout, Bujumbura-Bihanga, 3000 francs bout, Bujumbura-Gishuri, 10000 francs bout, Bujumbura-Gitaza, 2500 francs bout, Bujumbura Ijenda, 4500 francs bout, Bujumbura Kayanza, 7000 francs bout, Bujumbura Kibumbu, 7000 francs bout, Bujumbura Kiremba, 8500 francs bout, Bujumbura Kirundo, 13000, Bujumbura Kipuruga, 10000, Bujumbura Mabanda, 10000 francs bout, Bujumbura Mabai, 7000 francs bout, Bujumbura Magara, 3500 francs bout, Bujumbura Makamba, 11500 francs bout, Bujumbura Matana, 7000 francs bout, Bujumbura Minago, 3500 francs bout, Bujumbura Mugamba, 6000 francs bout, Bujumbura Muranga, 4500 francs bout, Bujumbura Muteini, 2500 francs bout, Bujumbura Muyinga, 13000 francs bout, Bujumbura Muzinda, 1500 francs bout, Bujumbura Maru, 6000 francs bout, Bujumbura Ngozi, 8500 francs bout, Bujumbura Nyandaraki, 8500 francs bout, Bujumbura Nyeshenza, 6500 francs bout, Bujumbura Rugombo, 5500 francs bout, Bujumbura Bumonge, 5500 francs bout, Bujumbura Butana, 10000 francs bout, Bujumbura Luigi, 13000 francs bout, Tega Karuzi, 6000 francs bout, Tega Butana, 6000 francs bout, Tega Luigi, 6000 francs bout, Tega Ngozi, 6000 francs bout, Tega Chamuzo, 8500 francs bout, Chamuzo Muyinga, 6000 francs bout, Tana Jihofi, 3500, Tana Makamba, 6000 francs bout, Gitega Muyinga, 8000 francs bout, Karuzi Muyinga, 3500 francs bout, Ngozi Muyinga, 6000 francs bout, Ngozi Kirundo, 6000 francs bout, Bodi Kayanda 2500 francs bout, Tega Ngaro 5000 francs bout, Kayanda Ndora 3500 francs bout, Gitega Kibumbu 4000 francs bout, Muyinga Kovero 2500 francs bout, Bujumbura Karuzi 11500 francs bout et Bujumbura Kovero 13500 francs bout.
Et au sujet de cette augmentation des prix des transports en commun, les personnes contactées par la radio Inzamba font remarquer que cette mesure rend la vie de plus en plus chère et trouvent qu'il fallait plutôt revoir la baisse des prix. Écoutez-les.
La hausse des prix vient d'être fixée au moment où les Burundais se trouvent dans la misère et que tous les prix des produits de première nécessité ont monté. Même cette essence qui a été revue à la hausse est introuvable.
Je pense que la prix de transport, c'est normal. Je pense aussi que le gouvernement a tenu compte au sens de la hausse du prix du carburant. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal, c'était prévisible. Je demande au gouvernement qu'il veille à ce que les transporteurs ne fixent pas leur prix.
La façon dont le prix a été augmenté pour le transport, c'est plénaire aussi. Donc, ça, c'est par rapport à la hausse du carburant qui a été faite.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.